les rendez-vous de Rosendo. Élysiane. Les rendez-vous de Rosendo, tous les dimanches à 13h, le mardi à 23h, et aujourd'hui, Rosendo, tu reçois Annick Lafontaine.
Bonjour à tous, nous sommes bien accompagnés parce que je reçois un rendez-vous notre invitée Annick Lafontaine, danseuse chorégraphe, intervenante dans les écoles et collèges du département de Tarn-et-Garonne. Et aussi, j'ai le plaisir de partager ce rendez-vous avec Lisiane et bien sûr avec toi, Aurélien. Et bonjour Annick.
Bonjour Rosendo.
Comment vas-tu?
Bien.
Annick, tu as commencé très tôt avec la danse, comme toutes les danseuses, tu pourrais me dire, mais je parle aussi en tant que pédagogue, chorégraphe, intervenante, parce que déjà à 17 ans, 1985, tu as ouvert l'école de danse à Causade. Mm-hmm. Ensuite, à 22 ans, tu as fait une formation pour être intervenante avec Marcel Bonjour, et intervenante agréée à l'éducation nationale. Et en 1995, tu avais 27 ans, et tu as créé la compagnie Horizon Nouveau. Mais dis donc, tu as commencé très tôt.
Alors, à l'époque, j'ai commencé tôt parce qu'en fait, c'était une formation avec la Fédération Française de Danse et c'était un peu le concept du BTS. C'est-à-dire qu'on avait le droit d'être sur le terrain et en même temps d'être en formation. Ce qui ne se fait plus maintenant, parce que maintenant il faut passer le EAT et après le DE pour être reconnu en tant que prof dans toutes les techniques.
Ça veut dire que déjà à ce moment-là, tu étais convaincue que tu allais être, en plus des danseuses, enseignante.
Oui.
Mais comment c'est venu, cette conviction?
Alors, parce que peut-être j'avais des parents enseignants et que l'enseignement m'a toujours interpellée et plu. Donc, en fait, et puis peut-être aussi par rapport à mon parcours, mon papa était directeur de l'école pilote. Donc, c'est une école expérimentale où déjà on nous éduque dans une ouverture, dans une notion de partage, de rencontre. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément bonne presse, l'école pilote, mais pour moi, c'est l'école de la vie. Voilà, on a rencontré des gens qui nous ont ouvert les yeux et donc très vite, hein, j'ai plein de copains avec qui on est resté en contact dans des domaines différents où très vite on savait ce qu'on voulait faire. Voilà.
Mais à 17 ans, par ta jeunesse et par inexpérience, parce que tu n'avais pas beaucoup de parcours à 17 ans, tu avais eu sûrement beaucoup des a priori, beaucoup des obstacles. Comment s'est passé à ce moment-là?
Au départ, j'ai commencé la danse à 4 ans chez Madame Sabatier Bianca à Montauban, donc une école très dure. En parallèle, on avait obligation de prendre des cours de musique avec André Zorzin. Donc là, c'était une technique classique. Et déjà à 12 ans, je suis allée vers elle en lui disant... Je ne veux plus faire de classique, donc ça a été un drame. Et elle donnait des cours de jazz, et je voulais absolument partir dans le jazz. Donc pour elle, c'était inconcevable. Donc du coup, j'ai fait un parcours. Je suis allée prendre des expériences à droite, à gauche, dans plusieurs techniques. Et puis un jour, je suis tombée sur la Fédération Française de Danse, avec la méthode Dominique Bagouet comme chorégraphe. Et à partir de là, j'ai vu qu'il y avait une possibilité d'être sur le terrain et en même temps d'apprendre. Donc c'est pour ça que je parle souvent de l'école de la vie. Et je crois que même encore maintenant, avec ma petite expérience, je l'appelle toujours une petite expérience, grâce à mes rencontres et sans les rencontres, on a tendance à rester dans un art qui stagne. Donc pour moi, j'apprends encore tous les jours.
Mais à 12 ans... Ouais. Tu étais préadolescente. Comment c'est venu alors cette décision de rompre ou d'arrêter les classiques?
Je pense que la pédagogie me convenait pas. Par rapport à mon expérience d'écolière, je pense que la pédagogie était trop rigide. Après, c'est une rigidité qu'on a aussi en contemporain. Hein. Le corps, on peut pas faire n'importe quoi avec. Mais à l'époque, j'avais envie de d'autres horizons que cette rigidité qui était très dure. Hein, c'est-à-dire, on pouvait pas faire d'autres activités. Par exemple, moi, j'aimais skier. Il fallait pas skier parce que on allait à l'encontre du corps. Hein, en danse, on travaille l'ouverture. En ski, c'est plutôt fermé. On pouvait pas faire de tennis parce que le tennis a développé musculairement les bras. Une danseuse classique avec des bras, c'est inconcevable. Enfin voilà, c'était toute cette rigidité. Même si je trouve que la danse classique a ses bons côtés. Mais c'est vrai que moi, dans mon parcours, mes élèves, je les ai envoyés en danse classique à 10 ans. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'avant, il faut être bien avec soi, il faut être bien avec les autres, et surtout avec son corps. Et donc après, cette rigidité, on est prêt à l'accepter.
Mais voilà. Maintenant, je m'adresse à une ancienne élève de danse.
Oula.
Je ne dis pas classique ou contemporaine ou moderne, mais simplement, je m'adresse à Lysiane, toi, en tant que...
Bonjour,
Lysiane. Alors, comment tu réagis à ces propos d'Annick au sujet de rompre avec... la danse classique ou l'enseignement de la danse classique à 12 ans?
Alors, j'ai pas une assez grande expérience, je pense, en danse pour réagir, mais enfin, j'ai jamais fait de danse classique. Là, je suis plutôt ravie de découvrir un petit peu le parcours d'Annick, que je ne connaissais pas. Voilà. C'est tout. Moi, je pense que je n'aurais jamais fait de danse classique à cause de ça, et je trouvais que dans la danse contemporaine, justement, il y avait cette, dans la liberté ou accepte, voilà, c'était ouvert à tout le monde, en fait. Je pense que c'est ce qui me plaisait. Voilà.
Et je te pose maintenant, Annick, une question qui pourrait être un peu épineuse, non? Parce que souvent, on les pose aux artistes, au bout de 30 ou 40 ans de carrière, on leur demande, mais vous êtes, si c'est le cas, vous êtes dans l'enseignement, vous croyez pas que on enseigne lorsqu'on constate qu'on est un artiste raté? Alors, je te pose cette question parce que tu n'as pas eu besoin de passer pour 30 ans de carrière. À 12 ans, tu avais déjà la conviction. Donc, du coup, tu as éludé la question. Mais maintenant, je te la pose. Imagine-toi que tu n'as pas choisi le métier d'enseignante parce que tu étais avant tout une danseuse. Mais comment tu te positionnes vis-à-vis de cette question? Est-ce que tu crois que les artistes qui partagent leur temps qui pourrait être destiné qu'à la création, à soi-même, à son propre univers. Du coup, on va supporter ces merdes, ces merdoses, et avec l'enseignement. Comment tu te positionnes là-dessus?
Ben, je crois que ma volonté première a été de partager les rencontres. Alors, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur les rencontres parce que je trouve qu'on n'en fait pas assez. Hein, on est toujours pressé dans tout. Donc, je pense que je me voyais pas danseuse. Honnêtement, je me voyais pas danseuse. Par contre, je me voyais, voilà. Sans arrêt à la recherche du nouveau, c'est-à-dire ben oui voilà, j'ai travaillé avec telle personne, j'ai des connaissances au niveau de l'histoire de la danse, etc. Mais toujours quelque chose de nouveau. Donc je pense que quand on est danseur, ben c'est vrai qu'on appartient à une compagnie, on est dans une, moi je sais pas comment dire, on est, je trouve ça très bien, mais moi j'étais plus attiré par l'enseignement par rapport à ce partage et à cette rencontre.
Plus l'enseignement toujours, que la chorégraphie? Plus l'enseignement
Non, parce que quand tu enseignes, ben, l'objectif final, c'est que quand même, à la fin, il y ait une écriture chorégraphique, qu'elle soit avec des amateurs, qu'elle soit avec des élèves avancés, qu'elle soit, voilà, avec des handicapés.
Donc, il y avait déjà une direction.
Oui, il y a toujours une direction chorégraphique, parce que c'est quand même la finalité d'un travail. C'est-à-dire, voilà, j'enseigne pas pour enseigner ou pour qu'on me ressemble. Ça, pas du tout. J'enseigne vraiment hein, pour partager et du coup pour diffuser des choses qui me touchent, mais elles vont me toucher à moi d'une certaine façon, mais elles vont me toucher mes élèves peut-être différemment, et je leur laisse ce chemin-là. C'est-à-dire que moi, voilà, j'arrive avec une trame, mais dans leur interprétation, ils vont pas forcément avoir la même trame que moi. Mais c'est leur intérieur et que je respecte, quoi.
Dans voilà. Le cadre de ce partage, nous nous sommes retrouvés cet été à Montauban dans le cadre du festival de danse. Et nous étions peut-être tout près au moment que Pia, cette jeune chorégraphe de Montauban, est partie à présenter sa conférence, son parcours de chorégraphe, parce qu'elle avait décidé de ne plus être danseuse, et elle avait suivi une formation pour être chorégraphe. Elle est toute jeune, hein, elle doit avoir moins de 20 ans.
Ouais.
Et elle, dans sa conférence, a présenté un problème d'être français aux États-Unis. Tu te souviens de la question?
Oui.
C'était quelque chose comme pour réussir vraiment comme chorégraphe, comme danseur en France, il faut venir d'ailleurs. On ne peut pas être français et triompher en France. Il faut toujours aller à l'extérieur pour revenir. Donc pour elle, c'était presque un parcours obligé d'aller à New York pour revenir en France, à Montauban. Parce que, selon elle, le fait de venir de Montpellier ou aller à Paris à une grande école en disant « je viens de Montauban, je viens de Montpellier », du coup, ben, c'est pas très glorieux. Tandis que si tu passes par l'extérieur... Oui, pardon, tu veux me dire quelque chose?
Ouais, enfin, moi, j'étais pas trop d'accord avec son parcours. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Deloche, qui était un chorégraphe. Je pense que tout le monde connaît Pierre Deloche. Et c'est vrai que souvent, il me disait, tu sais, tu seras jamais prophète dans ton pays. Et j'ai toujours dit à Pierre, c'est pas ce que je recherche. Voilà. Moi, ben voilà, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à diffuser, j'ai des gens à rencontrer. Et voilà, enfin, pour moi, c'était pas un besoin. Je veux dire, ben oui, moi, je suis partie sur Paris, je suis partie à Montpellier, je suis partie, voilà, mais mes racines, elles étaient dans le Tarn-et-Garonne. Et puis, peut-être parce que j'ai eu cette opportunité ben, où j'ai des gens qui ont pu m'aider aussi. À rentrer dans certaines...
Il y avait peut-être des choses à créer sur le département aussi, peut-être.
Oui.
En fait, c'était ouvert.
Ouais. Après, je crois que ça appartient à chacun de partir, de dire je suis obligée d'aller aux États-Unis pour pouvoir mieux écrire après de là où je suis. Pourquoi pas? Moi, c'était pas... Voilà, ça me... Moi, j'avais besoin de partir pour me former, ça c'est certain, hein, parce que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pôles de formation près de chez nous, si à Toulouse quand même, on en a trouvé. Mais c'est vrai que non, j'avais envie de développer, peut-être parce que j'avais des connaissances, donc ça me rassurait aussi d'avoir des connaissances pour pouvoir diffuser mon art, quoi.
Je suis entré tout petit sans le savoir, comme tout le monde. Derrière ces murs, j'ai grandi et j'ai observé chaque seconde. Je suis entré naturellement, personne m'a demandé mon avis. J'ai étudié son fonctionnement, ça s'appelle l'école de la vie. Faut savoir qu'ici tout s'apprend, les premières joies et les colères. Et on ne sort jamais vraiment de cet établissement solaire. À l'école de la vie, il y a des matières obligatoires. Et certains cours sont en option pour te former à ton histoire. La vie démarre souvent avec le prof d'insouciance. Il est utile, il t'inspire et puis il te met en confiance. Mais juste après vient le cours des responsabilités. Découvre les maux de tête et les premiers contrôles ratés. Le cours de curiosité est un passage important. En le comprenant assez tôt, j'ai gagné pas mal de temps. Puis j'ai promis que je m'inscrirais dans le cours de promesses. J'ai parfois été fort dans le cours de faiblesse. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Tout s'entend, on s'entraîne, des matières par centaines. C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ces couloirs. J'ai géré dans ces trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir. En cours de grosses galères, j'ai eu quelques très bonnes notes. C'est ce genre de résultat qui te fait connaître tes vrais potes. Ça m'a donné des points d'avance et une sacrée formation pour le cours de prise de recul et celui d'adaptation. Je me souviens du cours d'espoir, j'avais des facilités. À moins que je ne confonde avec le cours de naïveté. Il y avait une filière mensonge et une filière vérité. J'ai suivi les deux cursus, chacun à son utilité. En cours de solitude, j'avais un bon potentiel. Se satisfaire de soi-même est un atout essentiel. Mais j'aime bien aussi l'ambiance qu'il y avait dans le cours de bordel. J'ai vite compris que l'existence se conjugue mieux au pluriel. C'est qu'en cours d'humanité, j'ai eu deux très bons professeurs. On a eu des travaux pratiques tous les jours, moi et ma sœur. J'espère que petit à petit, j'ai bien retenu leurs leçons. Et qu'à l'école d'une autre vie, je transmettrai à ma façon. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne, tout s'entend, on s'entraîne, des matières par centaines. C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ces couloirs, j'ai géré dans ces trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir. En cours d'histoire, histoire d'amour, j'ai longtemps été au fond de la classe. Le cul contre le radiateur, j'ai bien cru trouver ma place. En pleine récréation, alors que je n'attendais rien, j'ai reçu ma plus belle leçon et le prof m'a mis très bien. Au cours de liberté, il y avait beaucoup d'élèves en transe. Le cours d'égalité était payant, bravo la France. Pour la fraternité, il n'y avait aucun cours officiel. Il n'y avait que les cours du soir, loin des voies institutionnelles. Alors on saigne, on cicatrise, on se renseigne, on réalise les bons coups et les bêtises, on s'allie, on se divise. Moi, pour comprendre l'existence un peu plus vite ou un peu mieux, j'ai choisi le cours d'enfance en ville et j'ai même pris l'option banlieue. Reste en cours de bonheur, le prof était souvent malade. On s'est démerdé tout seul, on a déchiffré ses charades. Autodidacte en sentiment, il n'y aura pas d'envie sans piment. Dans mes cahiers en ciment, moi j'apprends la vie en rimant. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Tout s'entend, on s'entraîne, des matières par centaines. C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ces couloirs. J'ai géré dans ces trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir.
Donc pourquoi ce choix, Grand Corps Malade ? Ben, je suis très sensible à ces textes. Voilà, je l'utilise beaucoup dans mes créations. Et ensuite, il a un parcours un peu particulier. C'était un grand sportif, je pense que tout le monde le sait. Et puis, ben voilà, il n'était pas forcément destiné à l'écriture. Et pour se sauver de cet accident, il s'est mis à écrire. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été beaucoup critiqué parce que le slam accompagné de musique. Donc j'ai aimé son originalité et puis j'ai aimé sa position de dire ben oui, pourquoi on ferait tous le même slam. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me touche, qui me fait pleurer et qui me rend gay aussi. Donc voilà un petit peu, et par rapport à ce morceau, l'école de la vie, je l'utilise beaucoup dans mes interventions sur les collèges, sur les CM1, CM2, parce que ben quand ils lisent le texte, ça leur permet de se poser des questions. Voilà, un petit peu...
Merci Annick pour cette présentation de Grand Corps Malade. Et ça, je pense que ça colle parfaitement avec les propos de la première partie de notre émission où tu parlais sur l'école de la vie. Bon, mais finalement, tu as bien conçu ton intervention ici parce que déjà les propos que tu tenais tout à l'heure et collent parfaitement avec les paroles et la musique de cette chanson. Et Lysiane, je pense que tu voulais réagir à propos des...
Oui. Pour ce qu'on disait sur la pause musicale. Donc je trouvais bien, intéressante la position d'Annick de vouloir créer ici en Tarn-et-Garonne et dans l'idée où on n'a pas besoin forcément de partir loin ou de monter à la capitale pour proposer quelque chose de bien et de qualité en fait. Donc je suis un peu pour la décentralisation de ce point de vue.
Merci Lysiane. Et justement, par rapport à l'école de la vie, tu as choisi une œuvre, c'est un film documentaire de Pina Bausch, ou sur Pina Bausch, qui travaille avec des élèves, ou pardon, ce n'est pas des élèves, c'est des jeunes de la rue qui n'ont pas eu un parcours de danse. Et il fait avec eux une œuvre qui s'appelle Rêve dansant. Et c'est une œuvre qui résume assez bien le travail des chorégraphes et aussi des pédagogues, parce que, comme toi, Pina Bausch a été pédagogue très tôt aussi. Et je me demande comment est-ce que tu as pu choisir cette œuvre filmique, c'est ta vidéo, ce documentaire. Dans quelles circonstances tu as découvert Pina Bausch? Comment tu as commencé à aimer son... Parce qu'elle était rebelle aussi, comme oui. Toi. Hein
mmh. Mais...
On va en parler sur Pina Bausch. Mmh. Et comment tu as découvert le travail
Donc
de Pina
déjà,
Bausch?
Au niveau de ma formation, on avait la pratique, la technique, mais on avait aussi l'histoire de la danse. Donc, par rapport à ma formation, je l'ai découverte. Ensuite, je me suis... Depuis 3 ans, je fais un partenariat avec le cinéma de Caussade pour justement solliciter mes élèves, ce qu'on m'a fait connaître, à leur faire connaître grâce à des films, grâce à des documentaires. Donc, on a pu voir ce documentaire au cinéma de Caussade. Et ce que j'aime bien dans cette personne, c'est cette prise de risque. C'est-à-dire qu'elle a fait une pièce avec des danseurs professionnels, les siens, qu'elle connaît bien, et elle s'est dit, je vais être dans une prise de... Enfin, je suppose, mais je pense que c'est ça, son travail veut dire ça. Je vais retranscrire cette pièce avec des gens qui me plaisent dans la rue, notamment des adolescents, donc double complication. Parce qu'un adolescent, on l'a tous été, des fois on a des phases bien, et le documentaire le décrit bien. Des fois ils sont super contents de ce que peut leur proposer le chorégraphe, et des fois ils sont un peu rebelles en disant mais qu'est-ce qu'elle nous demande, voilà. Donc elle, vraiment c'est une grosse prise de risque, et j'aime bien ce genre de travail quand je rencontre des artistes, c'est-à-dire elle aurait pu rester avec ses danseurs professionnels, donc quelque chose de confortable, ils font tout bien, ils sont vraiment dans l'interprétation qu'elle veut. Et là, je pense que ça doit éveiller aussi dans une création, quand on est chorégraphe, de dire, moi je conçois la chose comme ça, mais face aux gens que j'ai, je suis obligée de changer ma conception des choses. Donc du coup, c'est du nouveau. Donc je suis, je pense que...
Et tu te tu te laisses porter un petit peu par la rencontre du coup avec des ados, Et ça te permet d'aller dans des chemins que tu...
Voilà, et c'est pour ça que ce documentaire m'a beaucoup touchée, parce que je pense que ça a été des mois et des mois de travail pour rendre cette pièce aussi professionnelle que quand elle l'a fait avec ses danseurs professionnels. Je trouve ça intéressant. Moi, je l'aime. On voit bien, vraiment. Il faudrait que tout le monde voit ce documentaire, parce qu'on voit bien le travail que ça apporte, et aux chorégraphes et aux élèves. C'est-à-dire,
Je voulais juste te poser la question de savoir si tu aimais ce documentaire parce que tu t'y retrouvais.
Et je pense un petit peu. Enfin, toute modestie.
Bien sûr.
Mais je pense, ma façon de travailler. Souvent, moi, quand j'écris mes spectacles ou mes créations, je dis, l'état dans lequel tu dois être, c'est surprendre, surprise. Donc, je pense que je m'y retrouve. Alors, pas après avec la même empreinte, parce qu'on n'a pas le même parcours, on n'est pas les mêmes personnes. Mais du coup... Ça éveille des choses. On n'est pas dans un ronron, même si le ronron du chat est très agréable. On n'est pas dans un ronron artistique.
Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail du travail que tu fais dans les collèges ou établissements, en fait,
si... D'accord.
Oui. Alors, je ne sais pas si c'est le moment, mais...
Vas-y. Ouais. C'est bon.
Alors, là, c'est la formation que j'ai faite en 1990, où j'ai rencontré Marcel Bonjour, du ministère de la Culture. Je suis très attachée à ce qu'elle véhicule. Elle appelle ça la danse à l'école. Donc elle s'appuie beaucoup sur le travail de Dominique Bagouet, et en fait c'est la danse pour tous. Ça c'est moi qui l'ai nommée comme ça, et c'est vrai que depuis 1990 j'interviens en maternelle, primaire, collège, et là c'est pareil, c'est plein de rencontres, c'est-à-dire que souvent on arrive dans les classes, les garçons, oh là là la danse, non c'est pas possible, et parce qu'ils sont rugbyman, parce qu'ils sont footballeurs, et au bout de 2 séances ils se rendent compte que grâce à la danse contemporaine c'est pas forcément l'idée qu'ils avaient de la danse, c'est-à-dire que qu'est-ce que je sollicite dans mes interventions, c'est le travail de l'assurance, le travail de la créativité, le travail sur soi et le travail avec l'autre. Au travers de ma technique, bien entendu. Donc, du coup, je danse seule, je danse avec l'autre. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le milieu scolaire, c'est qu'il y a un gros partenariat, soit avec les enseignants ou dans les collèges, avec des professeurs de matière...
Oui, je connais le dispositif qui existait à Pierre Darras, au collège à Caussade.
Ça s'appelait la classe espace.
Ouais. Et je voulais juste savoir comment ça se passait. Est-ce que c'est ce cadre-là, en fait, dans d'autres établissements? Ou est-ce que c'est ponctuel ou,
Alors, on a la chance à Quercy-Caussade, la communauté des communes, d'avoir 12 heures par classe. Donc, chaque année, on est soutenu pour qu'il y ait des intervenants dans les écoles. Après, c'est un peu plus difficile sur les autres communes par manque de financement. Mmh. Donc, ils se débrouillent avec les lotos, les balles, tout ça.
Les élèves sont volontaires à la base. Non, tu parlais des élèves garçons, donc c'est une classe qui est choisie.
En fait, danse à l'école, ça fait partie du cycle PS. Donc en fait, c'est un cycle de 12 heures et les enfants, c'est un temps classe. Hein.
Donc voilà. C'est une classe d'un professeur qui est
qui
en
décide
partenariat,
de faire voilà d'accord. danse à l'école. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce travail-là, c'est cette ouverture qu'on propose aux enfants, parce qu'ils ont beaucoup d'a priori, mais c'est normal, hein, phénomène de médiatisation, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, et du coup après, ben on voit que les choses changent. Oui, c'est vrai qu'à COSAD, pendant 12 ans, après c'est beaucoup de travail hors temps scolaire, hein, parce qu'avec les professeurs, il faut se rencontrer, construire des choses, construire des événements, construire la pédagogie. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on me fait appel en tant que chorégraphe, mais c'est vraiment un partenariat. Je suis pas là pour prendre la place de l'enseignant, et l'enseignant n'est pas là pour prendre la place du chorégraphe. Donc tout ça, ça demande beaucoup de temps bénévole, que je revendique pas, hein, parce que je le fais avec plaisir, de préparation. C'est-à-dire que moi, que ça soit un enseignant ou un prof, ben il doit danser avec ses élèves. Déjà, ça fédère un groupe, ça fédère une classe, et c'est ce qui manque un petit peu dans notre pays. Et surtout, ça éveille plein
et
de
ça
tolérance.
Ça change le rapport, prof-élève aussi, j'imagine.
Tout à fait. C'est-à-dire que moi, souvent, je dis, ah ben tiens, ton maître, il m'a appris ça. Ou ta maîtresse. On est tous dans la même démarche. Voilà. C'est-à-dire, ok, t'es à l'école, t'es là pour apprendre, mais moi, je suis sûre que tu vas m'apprendre des choses. Voilà, parce que je vais déclencher des choses par rapport à la formation que j'ai eue de Marcel Bonjour. Voilà.
Donc les choses changent, Annick. Est-ce que tu pourras me dire si les choses changent au point qu'on peut voir plus de danseurs hommes, excusez-moi le pléonasme, hein, mais et sur les spectacles de Tarn-et-Garonne, sur les publics qui puissent diminuer la quota de rugby ou de footballeur en bénéfice des danseurs.
Alors, moi, actuellement, dans mon école, je n'ai qu'un garçon qui est en CM1, que j'ai depuis 3 ans. Alors, de 4 ans à 6 ans, les garçons, les mamans ont... Voilà. Mais ensuite, ben, c'est vrai que les garçons, ils sont influencés parce que c'est quand même pas rentré encore dans les mœurs, ce qui est bien dommage. Et moi, j'ai eu des garçons qui ont arrêté alors qu'ils crèvent d'envie de danser, parce que je les retrouve dans l'école, etc. Mais par l'influence des copains, la danse est pour les filles, etc. Du coup, ben... Voilà, ils sont pas eux et c'est bien dommage. Là, le petit garçon que j'ai depuis 3 ans, il a fallu 1 an avant qu'il avoue à sa classe. Et pour moi, ça a été de la tristesse.
Ah, comme Billy Elliot.
Voilà, ça a été, il a fallu 1 an pour dire je fais de la danse avec Annick. Alors que j'intervenais dans son école. Et ça m'a beaucoup affectée, ouais. Je me suis dit, il y a vraiment un gros travail à faire.
Oui, peut-être face aux parents. Un peu plus avec les parents ou avec les collègues profs. Ouais. Hein, qui puissent sensibiliser.
Les profs, non, parce que dès qu'ils ont la volonté de faire une action de danse, ceux qui sont pas du tout dans ce critère, la danse n'est pas faite pour les garçons.
Donc,
mais il y a un travail
de cette participation des collègues profs, c'est ce que je veux dire. Par exemple, si je m'adresse à Lisiane qui est dans l'enseignement ou qui bientôt sera dans l'enseignement des arts plastiques, et tu pourras constater, Lisiane, que au bout des concours, ou plutôt dans la formation arts plastiques, il y a plus de filles que de garçons.
Oui, même en arts plastiques, moi j'étais dans une classe de filles, effectivement. aussi, mais
Donc, et je reviens un peu sur la technique, parce que tu as parlé à travers ma technique à moi. Donc, tu disais que tu ramenais à ces élèves, soit dans les cadres du collège, des écoles ou dans ta propre danse, une technique. Est-ce que tu pourras nous résumer à quoi ça consiste ta technique?
Alors, moi, ma technique, déjà, il y a tout le travail de base. Hein.
Tu parles des classiques ou non?
Un petit peu, ben oui, on le reprend.
On
revient,
oui.
Ah non,
on
mais
revient,
je suis pas contre le classique. Hein. Il faut absolument pas avoir cette idée-là. Oui. C'était juste la pédagogie de cette technique qui me correspondait pas. Et moi, je sais avancer avec des choses qui me correspondent. Après, je me trompe, je me casse la figure, je me relève. C'est pas un problème, mais après, il faut vraiment que ça me corresponde. Je peux pas tricher avec un truc.
Donc, on a besoin d'une base classique.
Ah oui, oui. Mais après, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, moi, quand j'ai des élèves qui sont à fond là-dedans, j'en ai eu 4 notamment, c'est vrai que je les envoie chez mes collègues en classique à 10 ans. parce que je pense qu'il y a d'autres apprentissages.
Oui,
avant.
Et la technique à toi, comment?
Alors, moi, ma technique, on fait un échauffement, donc automatiquement, on travaille toutes les articulations, etc. Ensuite, ma façon de travailler, on apprend un enchaînement. Donc là, c'est pour solliciter la coordination et la mémoire, parce qu'un danseur sans mémoire, ça peut pas fonctionner. Et après, moi, ma spécificité dans ma technique, c'est les ateliers de création. C'est-à-dire que là, dans l'atelier de création, je vais solliciter l'assurance, l'espace, le rythme, l'état, l'émotion.
On revient au théâtre, alors la danse théâtre très chère.
Non,
à
il faut pas trop dire théâtre, non, parce que il y a pas de mots, il y a pas. Alors, parce que pour moi, le théâtre, je mets des mots. Donc, quand je dis je sollicite l'expression, c'est faire un mouvement, mais pas un mouvement pour un mouvement. Mon mouvement, il va vouloir dire quelque chose. Il va appeler quelque chose. Donc, du coup, il y a une expression qui va se faire naturellement.
Oui, mais pour l'indiquer à cet élève, tu dois exprimer ceci, cela, tu dois te laisser témoin à toi.
Moi, je donne des consignes que j'appelle.
Oui, par exemple.
Voilà. Là, tu me prends de cours, là. J'ai pas d'exemple. Pas cool.
Oui, imagine-toi que je vais m'inscrire à ta séance de ce matin.
Ah, moi, je t'ai dit, tu viens essayer. Oui. Tu vois, hier, j'ai deux adultes qui alors elles sont dansées aux États-Unis. Enfin, bon, j'ai eu un super CV. J'avais écouté le mieux. Vous venez essayer. Après, vous verrez si ça vous convient ou pas.
Oui. Donc, on va dire,
c'est difficile parce que, il faut que je sois dans mon travail. Bon, si, par exemple, la semaine dernière, sur mon cours ado-adulte, on a travaillé sur le déplacement. Donc, dans le déplacement, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir de la répétition, il peut y avoir des rythmes lents ou rapides. Est-ce que je suis pressée de me déplacer? Est-ce que Donc un petit exemple pour trouver des états ou des émotions. Donc ce deuxième choix musical, pourquoi? C'est ma source. Je vais beaucoup au cinéma et la première chose que j'entends, c'est la musique. Donc qui va me toucher pour mes futurs tableaux. Donc là, c'était dans la maison. Et puis c'est aussi un style, c'est-à-dire qu'en contemporain, on n'est pas figé que sur du texte, que sur des musiques qui vont crier un peu dans tous les sens. Non, on peut avoir plein de supports qui dépendent du thème que je vais choisir ou de ce que j'ai envie de transmettre. Donc c'était aussi un peu ce côté mélodie. Voilà, le texte des fois il peut être violent, mais la mélodie peut être aussi quelque chose qui adoucit. Donc voilà, dire que dans les choix de support musical en contemporain, on peut tout prendre, quoi. Voilà.
Merci Yannick pour nous faire partager cette musique du film Dans la maison. La musique de Philippe Rombi, je crois que c'est...
Ouais.
Oui, Philippe Rombi. On revient à Pina Bausch. Et peut-être il faudrait rappeler à nos auditeurs que Pina Bausch est née en 1940, elle est décédée en 2009, donc elle était toute petite quand, à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre, bien sûr. Et cette vision des décombres et des ruines, apparemment, l'a marqué beaucoup, parce que dans ses spectacles, elle n'aime pas les décors flamboyants ou paillettes. Elle aime plutôt ce qu'on pourrait appeler les décors moches, un peu kitsch. Et certains critiques disent que de ces décors, ce sont plutôt des récréations de cette vision d'enfance, des décombres, non, des ruines, au point que certains les qualifient de décors kitsch. Même avec, on l'a associé avec l'esprit du cabaret, du film de Bob Fosse, oui, le film de Bob Fosse. Et il y a toute cette ambiance d'après-guerre, de reconstruction. Bon, et du coup, ben, il faut aussi rappeler que Pina Bausch n'aimait pas beaucoup parler de son travail. Elle privilégier beaucoup les hasards, hein, dans les improvisations, beaucoup les hasards, comme on le voit dans les films documentaires dont tu as parlé. Et par ailleurs, j'ai entendu, j'ai lu sur elle qu'au moment de donner des indications, il utilisait beaucoup la métaphore, il utilisait beaucoup des phrases courtes, mais qui étaient très très expressives. Par exemple, tu as parlé tout à l'heure, Annick, sur les déplacements. Mm-hmm. Justement, elle parle à un de ses élèves sur les déplacements, il lui dit... quand tu marches, il faut que tu puisses suivre ton ombre. Mm-hmm. Alors imagine-toi comment tu vas suivre ton ombre si c'est toi qui es la génératrice ou le générateur de ton ombre. Donc l'élève comprenait qu'il fallait marcher plus lentement et même en reculant. Mm-hmm. Et du coup, ça inversait la vision logique des choses. Et dans cet esprit de amour à la danse, dans cette notoriété qu'elle avait, elle convoquait beaucoup d'élèves, beaucoup de compagnies la sollicitaient. Et pour revenir à ses travaux sur les rêves dansants, il voyait par terre des élèves qui étaient un peu tétanisés devant cette notoriété. Il leur disait, mais n'ayez pas peur, je ne vais pas vous mordre, je ne vais pas trop vous exiger. Simplement, il faut que vous sentiez ce que vous avez en vous pour pouvoir l'exprimer. Et c'était toute l'indication. Mais je reviens sur la formation à Pina Bausch. Elle a été formée à Essen, que c'était le verso quand même du théâtre-danse, c'est-à-dire la danse-théâtre, mais pas dans le sens de l'utilisation des mots, pas dans le sens de lancer des grandes tirades de verbes, mais plutôt dans l'expression corporelle, dans cette manière de mise en scène. C'était pas la danse, les corps qui suivaient la musique, mais plutôt la danse qui suivait les corps, la danse intérieure, oui.
Ouais, moi je parlais.
Oui. Donc, dans ces sens, je pense qu'il faudrait pas oublier l'influence de John Cage, de Graham, par cette danse expérimentale, cette danse moderne. Et je me demandais, Annick, si tout cet théâtre, non, il l'appelait Tanztheater. Cette influence de la danse-théâtre. Maurice Béjart aussi, bon, mais dans un autre langage, un peu plus spectaculaire, néoclassique. Et Pina Bausch se situe plutôt dans les cadres de l'expressionnisme allemand.
Alors moi, je dirais plus que moi, je ne peux pas l'appeler la danse-théâtre. Moi, je pense que c'est plus une danse, c'est-à-dire, elle ne veut pas être un modèle. Et c'est ce qui me plaît dans son travail, c'est que elle est là pour déclencher des choses chez les gens. C'est-à-dire que on est souvent en retenue dans notre quotidien. Donc la danse permet, c'est comme peut-être aussi un musicien quand il compose, hein, il va faire une musique peut-être un peu violente ou un peu plus douce selon son état. Et je pense que ce qu'elle essayait de créer, c'était, comme on disait tout à l'heure, moi j'appelle ça la danse intérieure. C'est-à-dire que tu déclenches des choses, mais l'interprétation est différente selon les personnes que tu as en face. Moi, souvent, je fais des ateliers, des mouvements de la vie quotidienne. Donc, du coup, ils vont devenir dans une spirale, ils vont devenir dans le sol, ils vont devenir dans une rythmique. Voilà, toujours partir de quelque chose qu'on connaît. Voilà, suis ton nombre. Ben oui, tous les jours, des fois, on voit notre ombre, voilà, quand on marche dans la rue. Donc, pourquoi pas utiliser cette matière-là? Quand tu parles de ces décors, ben, pour moi, c'est pareil. Je pense que tu fais bien de souligner, ouais, toute cette souffrance, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été beaucoup critiqué par ce côté expérimental. Mais, je pense que les décors qu'elle utilise, c'est des décors du passé. C'est pour ça qu'à nos yeux, ça nous paraît kitsch. Moi, mes élèves, quand elles ont vu le documentaire, m'ont dit, mais c'est quoi ces costumes? Alors que moi, on peut danser en jean, on peut danser en jogging chez moi, enfin bon, pas pendant le temps de travail, mais sur une création. Et ben, les costumes les ont énormément surpris parce que c'est des années en arrière et donc ça correspond pas forcément à ce qu'on voit tous les jours. Donc elle est toujours, je pense que, dans cette recherche de dire, n'oublions pas le passé. Et voilà.
Et justement, à propos du passé et des mémoires, et il y a souvent cette, vision pessimiste de la, du fin des siècles de Pina Bausch, parce que dans un des spectacles, je pense qu'elle veut transmettre que nous tous, en puissance, nous sommes tous des violeurs, des bourreaux, des manipulateurs, des sacrés connards. Mm. Et elle ne défend pas l'idéal d'un homme pur. Elle dit que nous sommes tous fragiles et qu'on est capable de basculer dans la collaboration ou dans la résistance.
Et ça, c'est dur. Ça, c'est un côté que j'aime pas trop, mais bon. Bon,
mais il y a un film, peut-être, que tu as vu, qui s'appelle La Chute de Olivier Hirschbiegel, et qui parle des derniers jours de Hitler, qui a été fortement critiqué en France, parce qu'il disait, on disait que le personnage de ce film avait été un peu lissé, comme lui donner une humanité à Hitler. Et je suis pas du tout d'accord, parce que je pense que, justement, Hitler était un être humain, mais qui a basculé dans les côtés les plus malsains de la barbarie. Mais, je pense que les critiques, les bons pensants, les politiquement corrects, souvent ont tendance à critiquer le camp, l'étiquetant de monstre, non? Et avec ça, tout est résolu. Non, je pense que ce film restitue, justement, que c'est n'importe qui, par négligence ou par ignorance, ou simplement par conviction, peut arriver. La limite entre le bien et le mal est très faible. Donc Pina Bausch a su saisir cette fragilité humaine et il la met en exergue avec sa danse. Bien, et j'aimerais cette fois-ci me retourner à Lisiane, si son expérience de danse, son expérience de danse contemporaine, parce que tu as fréquenté le festival de danse à Montauban.
Oui.
Si tu, quelle impression t'as eu par rapport à la danse contemporaine, la danse classique, la pédagogie, etc.?
Alors, je suis très bon public parce que, disons que je suis toujours, la danse m'intéresse parce que je ne connais rien et je ne comprends rien presque. En fait, j'en suis là, je suis toujours dans une interrogation de savoir comment on peut exprimer et qu'est-ce qu'on exprime à travers des gestes, en fait. Donc, je vais voir de la danse parce que, bon, d'une part, je trouve ça beau, voilà. Enfin, il y a des moments que je trouve beaux, mais ou les corps, enfin voilà. Mais après, c'est pas, je vais voir de la danse parce que je suis toujours dans cette interrogation. Donc, dans le festival Danse en Plein, c'est intéressant parce qu'il y a une programmation très diversifiée et avec le fameux forfait 3 spectacles, c'est très accessible et on peut voir des choses très très différentes. Donc j'ai toujours un bon ressenti par rapport à ce festival et je pense que j'irai à celui de le festival d'hiver. les hivernales. Je connaissais, voilà. Je savais pas le nom.
Et, oui, avec une belle programmation avec Claude Brumachon. Que moi, j'ai eu un stage et c'est quelqu'un auquel je pense souvent. Il est intervenant aussi par rapport à danse à l'école. Bon, maintenant, je sais pas, parce que ça remonte quand même à longtemps. Et lui, il nous a toujours dit en formation quand je suis chorégraphe, je ne peux pas être intervenant. Ça veut dire que on est sur deux états pédagogiques différents. Et que quand on essaie de faire les deux à son niveau, hein, parce que voilà, hein, il a une compagnie professionnelle, il disait, je peux pas. Si je suis sur une création, je suis sur une création. Si je suis sur des interventions de danse à l'école, je suis dans des interventions à l'école. Pourquoi? Parce que danse à l'école, ça veut bien dire la danse pour tout le monde. Donc on peut pas avoir une pédagogie et demander aux enfants des choses qu'on peut demander à des professionnels ou des amateurs avancés, etc.
Dois-je rester ou partir? Dois-je lui dire ou mentir? Dois-je me taire ou parler? Dois-je rengainer ou tirer? Suis-je un tueur endurci ou bien un enfant de cœur? À chaque croisement, ça recommence, c'est pas le moindre indicateur. Tant de voix à choisir, ça fout les jetons, rien qu'à l'idée d'un échec cuisant au total comme seule finalité. Chacun décide de ce qu'il est, un choix sans filet. Mais si le trapèze et la casse, là faudra pas se défiler. Alors, dois-je opter pour la sueur ou bien la facilité? Dois-je brûler mes valeurs ou bien les enchaîner à mes pieds? Dois-je lutter ou m'enfuir? Dois-je haïr ou aimer? Suis-je de ceux qui grognent ou suis-je de ceux qu'on entend pleurer? Trop de choix pour une vie, trop d'options à valider. Tous ces chemins qui s'ouvrent à moi, personne pour m'assister. Je peux pas passer mon temps à blâmer la fatalité. Y'a plus qu'à faire un choix, jeter les dés et assumer. 4, 2, 1, les dés roulent. Bascule vers la gloire ou la déroute. 4, 2, 1, le résumé de nos courses tourne. On doit viser le 4, 2, 1, les dés roulent. Soit t'es un king, soit tu dérouilles. 4, 2, 1, le résumé de ces courses effrénées, dur à présumer. Nous sommes tous gagnants du grand loto de la vie. Un sur un milliard, c'est dingue, voilà ce qu'on m'a dit. Une infinité de chemins s'ouvre à nous à chaque instant et on choisit avec nos feelings et nos tabous. Combien de fois sous des cieux épaissis, j'ai rembobiné le film et tout refait avec des si, hein. Avec des si, on redessine le passé, c'est impossible, on le sait. Alors on se console avec des signes, c'est pratique, on s'attribue les lauriers si on gagne. Lorsqu'on échoue, Dieu est désigné comme coupable. Mais des gamins meurent de faim ou d'un rhume, je peux t'assurer que l'homme et l'homme seul est bien responsable. Nos parcours n'ont rien de mathématique, suffit de maths et ma vie, la vraie mathématique. Dans les temps où Damoclès menaçait avec son épée, mes oncles de leurs doigts épais jetaient ses dés sur les quais. 4, 2, 1, les dés roulent, bascule vers la gloire ou la déroute. 4, 2, 1, le résumé de nos courses tourne, on doit viser le 4, 2, 1, les dés roulent, soit t'es un king, soit tu dérouilles. 4, 2, 1, le résumé de ces courses effrénées, dur à présumer. Les dés roulent, bascule vers la gloire ou la déroute. Le résumé, on doit viser le. Les dés roulent. 4, 2, 1.
Alors, ce choix musical, ben toujours pareil, hein, pour bien fort comprendre que, ben voilà, on peut prendre tous les supports dans une création. Et ce support, notamment, je l'ai utilisé pour un final l'an dernier sur un spectacle, le spectacle de l'école de danse. Et la surprise, c'est que, voilà, j'ai bien essayé de faire passer comme message. Que les élèves se rencontraient, partageaient, communiquaient, s'interrogeaient. Et ils se sont tellement bien interrogés que ben, ça s'est fini, hein, tous les élèves de dos. Donc c'est vrai que le public après est venu poser des questions, un final avec des danseurs de dos. Pourquoi? Ben, je vous donne pas la réponse et par rapport au texte que vous avez entendu, je vous laisse mettre vos propres pensées.
Bien, je pourrais rajouter que le titre de cet extrait musical, c'est 32, n'est-ce pas?
30 moins 2, c'était le spectacle. Ouais, 30 moins 2.
Le titre du
spectacle de l'an dernier,
oui, voilà,
de l'école de danse.
Mais c'était pas le titre de la chanson qu'on avait
entendu. Non,
il y avait
des
chiffres aussi, mais
oui, c'était 4-2-1.
Ah, 4-2-1, oui.
Voilà. Ça, c'était le titre de la chanson. Alors, 30 moins 2, pourquoi? Ben, en fait, c'était un travail chorégraphique sur, le souvenir, le passé, toujours les rencontres, parce que dans 2 ans, l'école aura 30 ans d'existence.
Ton école, je précise, voilà. C'est l'école oui. des Annick Lafontaine, voilà. Qui va avoir 30 ans d'existence.
Oui, dans 2 ans, j'ai un peu de temps, quoi.
Donc, c'est pour cela que tu l'as intitulé
30 moins 2. Voilà.
Oui.
Ouais.
Merci, Annick, d'avoir partagé ta musique.
Merci à toi, Rosendo.
Et donc, je rappelle à nos auditeurs que Annick Lafontaine est danseuse, chorégraphe et enseignante dans les Tarn-et-Garonne. Et dans cet esprit de partage de la danse, je disais à Aurélien que nous devrons, toi, moi et Lysiane, peut-être revenir au cours d'Annick Lafontaine pour adultes. Et surtout, adulte homme, n'est-ce pas, Annick?
Ça manque.
Ça manque, parce que
ça
manque beaucoup
bien.
De danseurs, oui.
Ouais.
Et il y a, à propos des danseurs hommes, je me souviens peut-être que tu as vu le film aussi de Wender, à propos de Pina Bausch.
Pina, je l'ai vu, exact.
Oui. Ouais. Et où là, j'ai découvert la bonne utilisation de la 3D. Pourquoi? Parce que c'est l'espace qui est filmé. La magie de transposer dans un écran l'illusion de la 3D est vraiment utilisée de manière intelligente et pas d'une manière excessive, comme d'autres films l'utilisent. Parce que loin d'apporter un plaisir ou une réalité, et il a des natures complètement ces 3D parce que ça fait mal à la tête ou parce qu'on nous détourne de la véritable histoire. Dans le cas des films de Wender, il l'utilise vraiment à bon escient. Tu as vu le film aussi?
Oui, oui, on l'a fait passer aussi à Cossade. Ouais. Ah ouais, la même année. Ouais, très beau film.
Annick, tu n'as pas mentionné ton écriture chorégraphique du voyage Nez à Nez. Est-ce que tu pourras nous en parler un petit peu sur cette écriture chorégraphique?
Alors, le voyage Nez à Nez, c'était un peu utiliser que les gens souhaitaient se rencontrer, donc au travers de duos, de trios, la difficulté aussi que peut amener la rencontre et le côté bien-être de se rencontrer et de partager avec les autres. Voilà, c'était un petit peu mathématique. Donc, cette écriture, elle a été interprétée par des danseurs de 4 ans jusqu'à 50 ans. Voilà. Avec une intégration aussi, parce que je travaille sur un groupe d'handicapés, depuis 12 ans. Et j'ai la chance, depuis 3 ans, d'avoir réussi à intégrer, 3 danseurs, dans mes cours avancés. Donc voilà, ça amène des difficultés face à mes danseuses, ça amène des difficultés aussi pédagogiques, mais ça amène de très belles choses. Voilà, c'est aussi une prise de risque, c'est-à-dire que on peut pas demander la même chose à tout le monde, donc il faut composer avec ça et c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà.
Tes élèves, maintenant, tu en as 70?
Oui, à peu près, ouais.
Et selon mes fiches, tu as des élèves de 5 ans jusqu'à 50 ans?
Et oui.
Oui.
Et des gens qui sont pas forcément résidents à Cossade. Voilà. Il y a beaucoup d'enseignants aussi qui viennent de Montauban. C'est vrai que ça fait plaisir parce que du coup, moi je circule beaucoup, mais à un moment donné, on me renvoie l'ascenseur et c'est les gens qui viennent vers moi. Donc, c'est vraiment intéressant. Voilà.
Annick, j'aimerais que dans ces peu de minutes qui nous restent, tu puisses avoir carte blanche pour dire ce que tu as envie de dire. Je ne sais pas, tes projets, ta promo, tes projets en 2014.
Oui, donc mes projets, c'est de d'essayer de d'avoir d'autres rencontres pour avoir d'autres énergies d'écriture. J'ai eu la chance de te retrouver au marché contemporain. Donc on s'est rencontrés comment on n'en a pas parlé, mais il y avait quand même quelqu'un qui nous a fait nous rencontrer. Et j'ai été très attachée à cette rencontre.
Ah, mais c'était retrouvailles, parce que nous nous connaissions quand même.
Oui. Mais c'est vrai que, au départ, on s'est rencontrés grâce à Andy de Grotte, qui m'a fait travailler sur sa compagnie enfant. Et donc, du coup, après, la vie a fait qu'on s'était un peu perdu de vue avec Rosendo. On s'est retrouvés au marché contemporain. Donc, j'espère que ces retrouvailles va nous projeter par de futurs projets, des performances de danse, de...
Merci.
Lisiane, je veux dire quelque chose.
Le spectacle 30-2 est d'actualité, en fait.
Il a été diffusé, fini. Ça y est, il est dans la boîte, fini.
Très bien.
Voilà.
Tu as un autre projet qui a été présenté en 2013. Bah, c'est pas un projet, c'était une réalisation que tu as présenté dans le département et spécialement à Cosa, où tu as fait un film. C'est le 2013, l'été 2013, tu as présenté un extrait à la Maison du Fort pour le marché.
30-2.
30-2, oui, voilà. C'était un extrait.
Donc là, j'ai fait un extrait, j'ai eu la chance d'être invitée à Danse en Place par Marie-Amélie Moreau, professeur du conservatoire, et Alain Marty. Donc du coup, mes élèves ont pu faire une diffusion Place Nationale, pareil avec un extrait. Et voilà. Et du coup, ça va certainement déboucher sur d'autres projets de rencontres entre une école privée et une école d'État. Donc voilà.
On peut te retrouver sur les net. Tu as un site,
sur Facebook. Ou autrement, on peut me contacter au 06 70 60 06 23.
Merci Annick.
Merci Rosendo. Merci Lisiane.
Merci Lisiane, merci Aurélien.
C'était les rendez-vous de Rosendo avec Annick Lafontaine. N'oubliez pas le podcast sur cfmradio.fr. Les rendez-vous de Rosendo tous les dimanches à 13h et le mardi à 23h.